Bonsoir, comment allez-vous ? À la question « Pourquoi parlons-nous de la pluie et du beau temps ?», le mensuel Philosophie Magazine a cherché des réponses chez ces quatre philosophes. Cicéron, qui évoque un manque d'éloquence. Jean-Jacques Rousseau, une communication-séduction. Roman Jacobson, une communication, point. Et Erwin Goffman, point de communication, c'est-à-dire parler de la pluie et du beau temps pour parler sans se mouiller. Certes, ces hypothèses tiennent la route, à condition de ne pas y être sur la route. Si on posait cette question aux cantonniers, aux cyclistes, aux marins, aux maraîchers, aux entraîneurs de chevaux, aux laveurs de carreaux, aux poseurs de fenêtres, aux chanteurs de rue, aux élagueurs, aux facteurs, aux jardiniers, aux voituriers, aux pilotes d'hélicoptères, aux bergers, aux grutiers, à ceux qui dorment dehors, à ceux qui dorment dedans en tremblant, écoutant le vent, à ceux qui ne dorment pas, aux guides de haute montagne, aux éboueurs clippers, aux astronomes, aux pêcheurs à la ligne, aux installateurs de clim, aux vendangeurs, aux capitaines de vaisseau, aux ingénieurs météo, ceux-là et bien d'autres encore auraient tout simplement répondu « La pluie et le beau temps, c'est important ». Parfois, je me demande s'il ne manque pas une case aux intellectuels, celle du ciel. Ça fait une grande case, non ?
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir comment les nuages changent-ils de forme. Merci de me répondre.
Bonsoir Lucas, tu fais partie de ces gens comme je te comprends, qui observent les nuages. Emmanuel Bocry, vous êtes ingénieur à Météo France, vous aussi vous observez les nuages ?
On observe tous les jours les nuages. Ouais. Un bon météorologiste observe les nuages. Ils indiquent beaucoup de choses. Ils nous indiquent s'il va faire beau, s'il va faire mauvais, s'il va pleuvoir ou pas. Alors, bonsoir Lucas. Tu es très observateur parce qu'effectivement, quand on regarde les nuages, ils bougent en permanence. Un nuage ne reste pas fixe. Même quand il n'y a pas de vent, il se déforme petit à petit. En réalité, un nuage, c'est constitué de gouttelettes d'eau ou de cristaux de neige. Et ces gouttelettes d'eau et ces cristaux de neige, en permanence, ils se détruisent et se reconstituent. Et c'est comme ça que les nuages se déforment. Alors, la classification des nuages, c'est relativement récent. C'est qu'en 1802 que Lamarck a proposé une première classification.
La marque
Colincourt. Et malheureusement, on ne l'a pas retenue. Et par contre, c'est un pharmacien anglais qui a fait une proposition. Et comme il était pharmacien, il utilisait un langage latin. Et c'est pour ça qu'on parle de cirrus, cirrostratus, nimbostratus, cumulonimbus. C'est du latin. C'était la seule façon qu'on avait de se faire comprendre très rapidement. Il y a un Français qui a été dans le coup, il s'appelait Tesserin de Bord. Lui a été le premier à faire un atlas des nuages, qui est actuellement encore en opérationnel. On l'a un tout petit peu remanié il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Alors, à tel point qu'on s'est posé pendant très longtemps une question sur les nuages. Est-ce que les nuages que l'on rencontre au-dessus de notre tête, ce sont les mêmes sur toute la planète ? Et il y a des météorologistes qui ont été payés pour faire le tour du monde, pour aller regarder si les nuages étaient partout les mêmes. Et si on veut, on peut très rapidement reconnaître quelques nuages. Il y en a qui sont très caractéristiques. Le premier qui est facile à reconnaître, il s'appelle les cirrus. Ce sont des nuages qui sont très très hauts en altitude et ils sont comme des cheveux, comme des espèces de filaments. Et donc ça, on les reconnaît très facilement. Un autre qui est si facile à reconnaître, qui s'appelle le cirrostratus. Quelquefois, on voit le soleil, c'est comme si on voyait le soleil à travers un verre dépoli. On voit une espèce de petit rond et il y a un halo tout autour. Alors quand vous voyez le halo, il n'y a même pas à discuter, on sait que c'est un cirrostratus. Autre nuage qu'on peut reconnaître, qui est très facile à reconnaître, ce sont les cumulus. Ce sont des nuages en forme de petits choux-fleurs, en général de beau temps. Quelquefois, il pleut en dessous et quelquefois, ils se mettent à grossir de plus en plus. Et plus ils grossissent, plus ils deviennent vraiment des gros choux-fleurs, très blancs, et ils deviennent ce qu'on appelle, nous, des cumulonimbus. On pourrait appeler le roi des nuages. Et sous le cumulonimbus, il pleut très fort, voire de la neige. Et c'est l'orage.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et des spécialistes leur répondent. Ce soir, Valentin a demandé pourquoi les hommes n'allaient pas voir au bout de l'espace, histoire de vérifier la façon dont ça se terminait. Sarah a demandé comment faisaient les peintres pour donner du mouvement à leur peinture. Et Paola a demandé pourquoi les animaux avaient une vie plus courte que celle des hommes. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, c'est Nina. Je ne veux pas dire mon âge parce que je suis trop vieille pour rappeler cette émission, mais je voudrais savoir pourquoi dans le mot crème, il y a un accent grave et dans le mot crèmerie, il y a un accent aigu et non pas un accent grave. Merci, au revoir.
Ah oui, mais bien sûr, vous avez raison, mais il n'y a pas d'âge, Nina, pour poser des questions intéressantes. Question que nous repassons à Muriel Gilbert, correctrice, donc qui traque les accents. Et vous avez écrit, Muriel Gilbert, au bonheur des fautes à la librairie Vuibert, et on dit une faute d'accent. Ce qui prouve bien que le mauvais accent est une faute.
C'est vrai.
A-t-elle raison d'abord? Y a-t-il un accent grave et un accent aigu entre crème et crèmerie?
Alors, elle a raison, plus ou moins. On va en reparler. Mais c'est vrai qu'en français, il y a plein d'incongruités. On prononce plutôt crèmerie et pendant longtemps, il a fallu écrire crèmerie. C'était la même chose pour événement, par exemple. On prononce plutôt événement et il fallait écrire événement avec deux accents aigus. Ah. Ou bien il cédera, on devait écrire il cède, bien sûr, avec un accent grave, mais on devait écrire il cédera, alors qu'on dit plutôt il cédera.
Ah, du verbe céder.
Et bien voilà, du verbe céder.
Et pas du verbe pardon. Aider la vieille dame à porter son sac.
Exactement, c'est vrai. Merci Noël. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Nina, parce que l'Académie française a décidé qu'on pouvait écrire les deux aujourd'hui. Donc, on peut écrire crèmerie ou crèmerie sans faire de faute. C'est pas chouette? L'Académie française, elle a été créée, revenons-y, quand même au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu sous le règne du roi Louis XIII pour donner à la France un dictionnaire et une grammaire. Et donc, c'est à elle de prendre ce genre de décision. Mais depuis, la langue évolue sans cesse, bien sûr, et le dictionnaire de l'Académie évolue. L'Académie en est à la rédaction de son 9e dictionnaire. Et à chaque fois, il y a des changements pour l'adapter à l'usage. L'usage, c'est-à-dire la façon dont les Français utilisent vraiment le français. C'est pas l'Académie qui décide comment on parle, en fait. Hein. C'est les Français qui décident ce qui va rentrer dans les dictionnaires, au bout du compte.
Oui, c'est l'usage.
C'est l'usage. En 1990, l'Académie française a décidé d'une petite réforme de l'orthographe. C'est plutôt des rectifications. Et parmi ces rectifications, il y a la permission d'écrire aussi bien crèmerie que crèmerie, événement que événement, il cédera que il cédera. C'est la même réforme là qui permet d'écrire oignon sans le i et pique-nique P-I-C-N-I-C. Il y a un F à nénuphar aussi dans la dernière réforme. On peut écrire nénuphar PH comme avant ou avec un F. Alors moi je préfère oignon avec un i, sinon je trouve que c'est comme si l'oignon piquait un petit peu moins les yeux. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Pour événement, je vais surtout pas changer ma façon d'écrire parce que je me rappelle encore douloureusement le jour en classe de seconde où on m'a fait remarquer que je m'étais trompée sur cet accent. Et puis, crèmerie, je suis bien contente d'avoir le droit de l'écrire des deux façons parce que, comme vous, Nina, j'étais tout le temps en train de prendre mon dictionnaire pour savoir dans quel sens il fallait mettre l'accent sur crèmerie.
Le dernier livre de Muriel Gilbert parle de bonbons. Encore plus de bonbons sur la langue. Il est édité à la librairie Vuibert.
J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi?
J'aime être stone avec toi. J'aime.
Stone avec toi, c'était le chanteur Philippe Catherine.
Les petits bateaux sur France Inter.
Qui a dit « Le jour viendra où les gens verront le meurtre des animaux comme ils voient aujourd'hui celui des êtres humains ?» Allez, un indice, c'est un végétarien, mais il n'est pas connu pour ça. Un deuxième indice, c'était il y a 500 ans. Un troisième indice, j'ai entendu cette phrase dans un documentaire qui lui était consacré sur la chaîne Arte, où il y a du monde. Quatrième indice, une énorme exposition lui est consacrée en ce moment au musée du Louvre à Paris. Vous avez trouvé, bien joué, Léonard de Vinci. Gilles Boeuf, lui, est professeur à la Sorbonne et professeur invité au Collège de France.
Bonjour, je m'appelle Paola, je voudrais savoir, et croire dans les débuts, je voudrais savoir pourquoi les animaux ont conduit et que nous, les hommes, on a une longue vie. Merci, au revoir.
Gilles Boeuf, avez-vous bien compris ce qu'a dit Paola? Moi, j'ai un casque. Pourquoi les animaux ont une courte vie et les hommes une longue vie? D'abord, a-t-elle raison, Paola?
Non, pas du tout. Des animaux qui vivent beaucoup plus longtemps que nous. Alors, on vit longtemps. Hein. Si je prends les 2 millions d'espèces connues, les 1,3 millions d'animaux, globalement, on est vraiment dans la frange qui est la plus haute, ça c'est clair. Et en plus, ce qui est intéressant chez l'humain, c'est que l'humain, par sa technologie, sa technicité, sa créativité, a augmenté la durée de vie humaine. En gros, en France, on a gagné 35 ans depuis 1860.
Ah, c'est beaucoup.
On vit 35 ans de plus. Et on croyait que tout allait bien, qu'on allait vivre de plus en plus longtemps en permanence. Or, il y a 10 ans exactement, ça s'arrête. Les femmes françaises gagnaient tous les ans 2-3 mois d'espérance de vie en plus, parce que la médecine était meilleure, il n'y avait pas de mortalité des bébés, on se soignait quand on était malade. C'est en train de s'arrêter. On a grandi sans arrêt aussi, on a gagné 15 cm depuis 1860. On vit plus longtemps, on grandit plus. Et ça, c'est l'humain, par sa culture, qui a modifié ce qu'était la biologie initiale, bien sûr. Mais il y a plein d'animaux qui vivent plus longtemps que nous. Tu as même des requins qui vivent 400 ans, des tortues qui vivent 200 ans, un corail, 5000 ans, un récif corallien, pas chaque individu. Des arbres, moi j'aime beaucoup les forêts de Patagonie, j'y vais souvent. Les grands araucaria, tellement beaux. Ils vivent entre 1000 et 2500 ans. Donc, il y a beaucoup d'espèces.
Ce ne sont pas des animaux.
Le vivant en général.
Ah oui.
Mais les animaux qui vivent beaucoup plus longtemps. On a un petit mollusque, c'est vrai. On a un petit mollusque marin qui vit 300-400 ans, qu'on a retrouvé récemment.
Les petits, je pensais que plus on était gros, plus on vivait longtemps.
En général, c'est vrai. Mais il y a des petits qui vivent très longtemps aussi. En général, pour vivre longtemps, il faut vivre discret et caché. Donc l'humain vit assez longtemps, est capable de jouer sur sa durée de vie, mais il n'y a pas d'espèce, alors si on parle que des animaux, qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, bien sûr. Un éléphant, il vit 50 ans, alors qu'un clochard parisien, il vit 45. Alors qu'un type qu'on nourrit correctement, qu'on refroidit l'été, qu'on chauffe l'hiver et qu'on alimente bien, il vit 84 chez les femmes aujourd'hui, 78 chez les garçons. Donc tu vois, c'est très subtil tout ça. Mais l'humain n'est pas du tout l'espèce qui vit le plus longtemps aujourd'hui sur la Terre. Et oui, si on parle des plantes, c'est encore beaucoup plus que ça.
Donc on n'est pas champion de la longévité, l'humain.
On est champion de rien.
C'est ce que j'allais vous demander. On est champion de quoi, Gilles Boeuf?
Alors justement, j'ai une histoire intéressante sur les performances. On me disait, regardez, Bolt, l'homme qui court le plus vite au monde. Il court à la vitesse d'un chat. Un lion court 2 fois plus vite. Un cheval plus vite aussi. Et je prends maintenant un animal qui nage.
Ah ben, du don, un cheval à 4 pattes. Bolt, il n'en a que 2.
Ben, un lion aussi, bien sûr. Hein. Ouais. Ben, une autruche qui a que 2 pattes court beaucoup plus vite que nous, par exemple. Ouais, hein. Ouais. Donc ça veut dire que, globalement, l'humain est beaucoup plus organisé, intelligent, créatif, c'est sûr. Et surtout, l'humain tient compte du futur dans ce qu'il fait. Quand je vois mes femelles chimpanzés qui travaillent pendant longtemps pour mettre au point un petit système pour récupérer des termites dans une termitière, elle passe 2 heures à préparer son outil. Elle a mangé sa termite et elle s'en va après en laissant son outil sur le sol. Alors que l'humain a gardé son outil. Mais on n'est pas l'animal qui vit le plus longtemps, loin de là.
Eh bien voilà, l'homme est champion de rien du tout. Ça calme. Ça ne nous empêche pas de faire de jolies choses.
Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 6 ans. Je voulais savoir comment les peintres font pour donner du mouvement à leurs tableaux. Merci, au revoir.
Ah, Sarah, tu as raison, on se le demande aussi, le mouvement, ça c'est magique, la lumière, le mouvement. Mais toi, tu nous parles du mouvement. Comment les peintres font pour donner du mouvement à leurs tableaux, Françoise Barbegal?
Écoute, Sarah, il n'y a pas vraiment de recette, c'est-à-dire que certains vont donner du mouvement tout simplement en représentant des personnages en mouvement. Tu vois, ça peut être une première idée. Tu vas me dire, oui, mais ça n'est pas facile de donner l'impression que les personnages bougent, justement. Alors ça va dépendre. Est-ce que l'on connaît bien justement la représentation des corps? si on ne connaît pas bien la représentation du corps, peut-être ça sera plus difficile. On peut représenter le mouvement aussi, ou en donner l'idée, avec des coups de pinceau qui sont visibles. Quand on voit des touches, c'est-à-dire la trace hein, du pinceau, on voit où le pinceau est passé, ça donne quand même l'idée d'une surface qui s'anime, beaucoup plus que si la surface du tableau est parfaitement lisse. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très très utilisé par les peintres. On peut aussi quelquefois faire bouger, par exemple, les vêtements, ce qu'on appelle les drapés. À certaines époques, par exemple au XVIIe siècle, dans des tableaux de Rubens, on peut penser à lui en particulier, on a affaire à des personnages immobiles, et pourtant on voit leurs robes, leurs vêtements, leurs manteaux qui s'envolent. Alors on a l'impression que du vent passe dans l'image, qu'il y a un souffle, que quelque chose s'anime. Tu vois, il suffit de quelquefois de représenter le manteau de quelqu'un qui rebique un petit peu, et on a l'impression que le vent passe. Ouais.
Alors je pense à quelqu'un comme Degas, qui a quand même peint beaucoup des danseuses, des chevaux.
Alors comment, il les représente souvent avec, la possibilité de suivre la progression d'un mouvement entre deux ou trois, ou même plus, de ces personnages. C'est-à-dire que l'un, par exemple, va avoir un bras en l'air, et puis le deuxième personnage, le bras un petit peu plus bas, et puis le troisième personnage, le bras tout à fait baissé. Et au fond, on a l'impression, même sans y penser, que c'est comme le même personnage qui serait en train de baisser le bras.
Ah, comme un dessin animé.
Voilà.
Les ouvrages de l'historienne d'art Françoise Barbegal sont sur le site des Petits Bateaux, ainsi que l'adresse de son site Coreta, comment regarder un tableau.
Stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
Bye.
C'est ce qu'on appelle un tube. Et c'était Elton John sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir s'il y a une fin à l'espace ou pourquoi les cosmonautes n'y vont pas pour voir. Merci.
Jolie voix et jolie question, Valentin. Pourquoi, s'il y a une fin à l'espace, les cosmonautes n'y vont pas pour voir? C'est pas une question facile, François Forger. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous vous occupez des planètes qui sont dans l'espace. Pourquoi on n'y va pas?
Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. La première, s'il y a une hypothèse, s'il y a une fin à l'espace. Alors ça, c'est une question très très difficile. J'oserais pas y répondre. De savoir si l'espace, l'univers est infini ou pas, en fait, on sait pas trop. Ce que l'on sait, c'est que l'espace, l'univers est immense. C'est immense. Ce qui fait que même si l'espace, l'univers n'est pas tout à fait infini, de toute façon, ce serait très très compliqué d'aller voir au bout. D'abord, si l'univers n'est pas infini, on pense quand même un petit peu comme la Terre n'est pas infinie, on pense pas qu'il y ait de bord. Vous voyez, sur Terre, la Terre, c'est fini. Il y a une surface délimitée.
Mais si je marche autour, je m'arrêterai jamais.
On s'arrête jamais. Eh ben, tous les modèles d'univers, même ceux qui font l'hypothèse que l'univers n'est pas totalement infini, en gros, font cette hypothèse-là. Alors c'est compliqué, c'est dans l'espace-temps, Einstein et compagnie, ça devient assez compliqué très très vite. Malgré tout, cette image-là marche quand même. Et de la même manière, cette image fonctionne sur l'idée d'horizon. Quand on est sur Terre, on voit l'horizon. Eh bien, quand on est sur la Terre, mais quand on regarde très très loin avec des télescopes, il y a une espèce d'horizon aussi. C'est tout simplement le fait que l'âge de l'univers n'est pas, lui, infini. L'univers environ un peu plus de 13 milliards d'années. C'est déjà très vieux. Ça veut dire qu'on peut pas regarder au-delà de 13 milliards d'années-lumière. C'est une des distances considérables. Sinon, la lumière a pas le temps de venir de nous. Et puis, quand on regarde à 13 milliards d'années-lumière, on voit la jeunesse de l'univers. Bref, on va pas rentrer dans les détails là.
Donc, ce qu'on peut dire à Valentin, c'est qu'on peut pas y aller voir parce qu'on voit pas, déjà.
C'est vrai, mais surtout, moi, je trouve que cette question est intéressante parce qu'elle nous donne, elle permet il faut réaliser les différentes échelles, les différentes distances qu'il y a dans l'espace. Quand on parle des astronautes ou des cosmonautes, la plupart de nos jours, ils vont, par exemple, sur la Station Spatiale Internationale, qui est à 400 kilomètres de la Terre. Alors, on a quand même eu des astronautes, il y a 40 ans, qui ont été sur la Lune. Bon, ça, c'est déjà plus loin. Ça va jusqu'à 400 000 kilomètres. Mais c'est très, très proche. Parce que, si on voulait juste aller, par exemple, à l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Il faudrait 100 000 ans pour y aller, si on est un astronaute. C'est vraiment très long. Mais ça, c'est la plus proche de toutes.
100 000 ans pour le premier arrêt.
Voilà, pour le premier arrêt. Ça, c'est celle qui a 4 années-lumière. Maintenant, si vous voulez aller jusqu'au bout de notre horizon, là, que je vous ai dit, qui était à plus de 13 milliards d'années-lumière, bah là, on sait plus comment faire. Il faut beaucoup plus que l'âge de l'univers. On sait pas faire du tout. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que, la Lune n'est pas loin. Les planètes, déjà comme Mars, c'est déjà beaucoup plus loin. Pour aller sur la Lune, il faut 3 jours. Pour aller sur Mars, il faut 6 mois. Pour aller jusqu'à Pluton, il faut 10 ans. Et pour aller jusqu'à l'étoile la plus proche, 100 000 ans. Et puis, alors, voilà. Donc, quand on dit l'espace, une fois qu'on est sorti de l'atmosphère, qu'on est dans l'espace, ça ne veut pas dire du tout qu'on est à côté des autres étoiles. C'est immense, l'espace.
Nous terminerons cette émission sur cette belle phrase de François Forger. C'est immense, l'espace. Nous vous quittons pour vous donner rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Grégory Wallon, Jean-Baptiste Audibert, Eliane Gérard, Marjorie Devoucoux, Noël Bréham. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr. Et nous vous laissons avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.